Cette parabole du semeur comporte évidemment de très nombreuses interprétations possibles. C'est une mine infinie de laquelle on peut tirer tant et tant de choses que je ne prétendrai pas en faire une liste exhaustive. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, dans cette parabole, c'est que c'est l'une des très rares paraboles qui soit expliquée par le Christ lui-même. Alors ça, c'est quand même intéressant, puisque si le Christ a expliqué la parabole, je ferais mieux de me contenter de le laisser faire et de ne pas prêcher dessus, parce que je ne pense pas que mon explication à moi pourrait être préférable à l'explication du Christ. Cependant, j'avoue que l'explication même du Christ ne me convient guère. Et je trouve même que, d'une certaine manière, elle embrouille tout. Et qu'on a l'impression qu'elle donne la solution. Mais je trouve qu'elle ne donne pas du tout la solution. Parce qu'en effet, s'il n'y avait pas l'explication du Christ, eh bien, comment est-ce que j'aurais interprété cette parabole ? On aurait dit évidemment que le semeur, c'est Dieu. Et puis, j'imagine que la terre, c'est nous. Donc nous devons recevoir de Dieu ce que Dieu sème. Et si je vous demande à vous, qu'est-ce que Dieu nous donne ? Vous auriez dit, mais Dieu, il nous donne sa grâce, son amour, il nous donne sa paix, sa joie, sa force, sa présence, son pardon, sa consolation, tous les dons de la grâce. Et à ce moment-là, j'aurais pu effectivement comprendre comme ça cette parabole. C'est tout cela que je reçois de Dieu, et c'est tout cela que je dois mettre en moi pour en faire la source même de ma vie, le carburant de mon existence, je dois m'en nourrir, et je dois être capable de le redistribuer au centuple. Ce serait une très belle explication, mais j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de la faire, puisque Jésus, lui, quand il l'explique, il nous dit « Le semeur, c'est la parole qu'il sème. » Ah, c'est dommage. Et du coup, on a l'impression que l'explication de cette parabole, ce serait de dire que nous, on a reçu la parole au catéchisme, on a reçu l'évangile, eh bien essayez de bien vous souvenir ce que Jésus vous a dit, parce qu'il faut ensuite le redire, le redonner, il faut en témoigner, il faut aller le redire dans le monde. Et tout à coup, cette parabole dit tout à fait autre chose, et je dirais même qu'elle dit des choses, à mon avis, beaucoup moins intéressantes. C'est si vrai qu'un bon nombre de commentateurs ont pensé que l'explication du Christ, enfin l'explication mise plutôt à la suite de la parabole, n'était pas du Christ. Et certains ont dit, mais ça a été rajouté plus tard, au moment de la rédaction de l'Évangile, en 70 après Jésus-Christ, et ça a été rajouté à ce moment-là pour inciter les disciples à être fidèles à l'enseignement et à l'Évangile qu'ils avaient reçu. Et donc un bon nombre de théologiens, d'exégètes, ont osé dire qu'ils pensaient que cette explication n'était pas du Christ. Je suis moi-même un lecteur de la Bible peut-être un peu naïf, mais je déteste ce genre d'échappatoire. Et je n'aime pas, quand il y a un passage qui m'embête, me contenter de dire « Oh, ben ça a été rajouté, ça a été mis plus tard, Jésus ne l'a pas dit, etc. » Peut-être suis-je naïf, une fois de plus, mais je veux croire que cette explication est bien, effectivement, de la bouche même du Christ, et que par conséquent, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Je dirais qu'il y a deux façons de s'en tirer. L'une, c'est de considérer que l'explication qui est donnée, elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée aux apôtres, elle est donnée aux disciples, à ceux qui étaient là. Et c'est bien ce que dit Jésus, il dit « voilà, je parle en parabole ». Et les gens lui demandent « mais pourquoi parles-tu en parabole ?» Voilà, en effet, encore une bonne question. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole ? Il ferait mieux de donner directement l'explication et puis d'arrêter de nous embêter avec des sortes d'énigmes. Les gens qui parlent en énigmes et de façon couverte sont des gens qui finalement m'agacent d'une certaine manière. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais Jésus, là, s'explique. Et il dit, ben vous voyez, en citant ce passage d'Ésaïe, très complexe, mais en gros, il dit, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il ne suffit pas d'entendre un beau discours pour pouvoir être sauvé. Et il dit, ils ont des oreilles et ils entendent mais ne comprennent rien, ils ont des yeux et ne voient pas, et il dit que Dieu a en fait obscurci un peu cela, de peur qu'en entendant ils comprennent et que du coup ils soient sauvés. Comme si c'était si simple, il suffirait de suivre un bon catéchisme, d'entendre une bonne prédication, d'y croire, et à ce moment-là, on serait sauvé. Mais justement, le Christ dit, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas en étant un bon élève que l'on est sauvé dans le christianisme. Trouver le salut dans sa vie, c'est être dans une démarche, dans une démarche de réflexion, dans une démarche de croissance intérieure, comme ce grain qui pousse, mais il ne pousse pas d'une minute à l'autre. Et la terre n'est pas validée par le fait qu'elle a dit « oui, je veux bien le grain, je la garde en moi et puis je te la rends quand tu veux ». C'est une lente croissance, c'est tout un processus. C'est extraordinaire, le processus d'une graine qui germe, d'un fruit qui pousse, de la moisson ensuite. Tout ça, c'est un travail qui se fait sur du temps. Et effectivement, je crois que le Christ nous explique que le salut, c'est-à-dire trouver cette dimension extraordinaire de sa vie, c'est tout un travail qui se fait, et c'est un travail de recherche intérieure, un travail de réflexion. Et c'est pour ça que le Christ parle en parabole, parce que l'Évangile, ce n'est pas une leçon à apprendre, ni même à réciter. L'Évangile, c'est un travail intérieur, et donc on lit cette parabole. Et l'intérêt, ce n'est pas l'explication, c'est ce travail qui se fait dans votre cœur, quand vous vous dites « mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qui c'est le maître ? Et pourquoi y a-t-il des mauvais terrains ? Et moi, je suis lequel de ces terrains ? Et si je suis un mauvais terrain, ai-je la possibilité de devenir un bon terrain ? Et si oui, comment ? Et quelles sont ces épines qui peut-être étouffent cette parole qui est mise en moi ? Ce sont toutes ces questions qui sont les bonnes questions, parce que chacun doit y répondre différemment. D'où l'intérêt d'une parabole, justement. C'est qu'elle s'adapte, en fait, à chacun, parce que la vérité de la parabole n'est pas dans la parabole, elle est dans la réponse que vous y donnez vous-même. Alors oui, peut-être, effectivement, du coup, chacun donne-t-il une réponse à la parabole ? Et puis, pour les disciples, dans cette situation particulière des 12 qui étaient là en train d'écouter un enseignement et Jésus allait s'en aller, Jésus leur dit, ben vous voyez, tiens, voilà, dans ce cas très particulier du vôtre aujourd'hui, la parabole peut signifier cela. C'est que vous avez reçu une parole et il faut maintenant que vous la rediffusiez au monde. Donc je dirais que c'est un des sens de la parabole, mais ce n'est pas l'explication de la parabole des talents, du semeur, pardon. Autre solution, c'est de dire qu'en fait, la parole de Dieu, eh bien, c'est fondamentalement la manière avec laquelle Dieu agit. Et comme le dit l'évangile de Jean, au commencement était la parole, cette parole était la parole de Dieu, tout a été fait par elle, et cette parole, c'était Dieu lui-même. Et donc, quand on dit que cette parole a été donnée aux disciples, ou nous est donnée à nous, et que ce que nous devons, c'est recevoir cette parole pour ensuite la remultiplier, ce n'est pas pour dire « apprenez le catéchisme, apprenez la bonne doctrine, apprenez la dogmatique, et puis mettez-la en vous-même et soyez capable de la réciter ». Mais c'est plutôt « comprenez et recevez les paroles de Dieu ». Et les paroles de Dieu, ce n'est pas des paroles humaines, c'est une parole d'amour, c'est une parole de paix, c'est une parole de Dieu qui dit à chacun de nous « tu es mon enfant et je t'aime ». C'est une parole qui dit à chacun de nous « debout, lève-toi et marche ». C'est une parole qui dit « moi, je ne te pardonne pas, va et ne pêche plus. » Ce sont des paroles qui disent « tu es mon enfant bien-aimé, viens dans mes bras. » Eh bien oui, ce sont ces paroles-là que nous devons recevoir. Et certainement, ce sont aussi ces paroles-là que nous devons redistribuer. Parce que ce n'est pas le tout de se dire que l'on est aimé par Dieu, mais encore faut-il effectivement que cet amour devienne tellement grand en nous qu'il puisse rejaillir, ressurgir d'une autre manière tout autour de nous dans le monde. Et alors, tiens, ben finalement, je m'en sors bien, parce que je retrouve l'explication que j'aurais voulu donner à la parabole et donc que je vous évoquais au départ. Et donc, effectivement, je crois, voyez-vous, que la parabole, l'explication de Jésus, d'une certaine façon, n'ajoute pas grand-chose, et on aurait très bien pu s'en sortir autrement. Toujours est-il qu'il y a effectivement, par-delà cette question-là, beaucoup de choses que nous dit cette parabole du semeur, et je me contenterai que de survoler quelques questions qu'elle peut évoquer. Tout d'abord, il y a cette question dont j'ai déjà parlé à l'instant et qui tracasse beaucoup de lecteurs de la parabole du semeur, c'est la question d'un apparent déterminisme. En effet, on a l'impression que si le maître sème dans le chemin, le chemin, c'est un chemin, et le chemin n'a pas la possibilité d'être autre chose qu'un chemin. L'endroit pierreux, c'est un endroit pierreux. Et donc, on a l'impression que finalement, aucun des terrains ne peut faire quoi que ce soit pour changer sa propre nature, et donc la réponse qu'il donnera. Alors ça, c'est effectivement une question, et d'où une autre ? S'il en est ainsi, pourquoi le Seigneur et le Maître s'aiment-ils aussi dans les endroits dont il sait par avance, et il le dit, que ça ne poussera pas. C'est en effet, je dirais, une incurie totale. Aujourd'hui, n'importe quel cultivateur s'amuserait à semer sur les routes goudronnées, on dirait il est fou, c'est une imbécilité. Dieu, s'il cherchait la rentabilité, devrait plutôt dire, bah, écoutez, moi j'ai bien compris, je vais semer dans la bonne terre. Donc d'une certaine manière, c'est lui le fautif. Ce n'est pas le chemin qui a tort d'être chemin, c'est le semeur qui a eu tort de semer dans le chemin. Eh bien, je pense que pour se sortir de cette, je dirais, de cette impasse, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut, la plus importante peut-être, c'est peut-être aussi un des messages essentiels de la parabole du semeur, c'est la notion de grâce. C'est-à-dire que Dieu donne sans se demander si celui qui reçoit en est digne ou non. Il ne se dit pas, je vais vous donner la grâce à vous, mais est-ce que vous allez en faire bon usage? Tiens, je pardonnerai bien à un tel, mais est-ce qu'il sera reconnaissant? Dieu, justement, ne fait pas ce genre de calcul. Et Dieu est celui qui donne sa grâce d'une façon universelle, aux bons comme aux méchants. Il n'y a aucun calcul, aucun jugement, aucune condition, mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est donné à tous, sans condition. Je ne connais pas de texte, pratiquement, dans l'Évangile, qui soit aussi clair sur cette question. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, etc. C'est vrai que je crois que c'est extraordinaire, cette notion de grâce absolument universelle. Et donc Dieu donne à tous, ça c'est essentiel. Et je crois que même aujourd'hui, il est bon de le rappeler. Parce que trop souvent, même dans nos églises chrétiennes, on a tendance à dire, ah ben Dieu il donne sa grâce, ben oui mais il faut encore qu'il soit baptisé quand même. S'il n'est pas baptisé, il ne va peut-être pas la donner. Ou alors Dieu donne-t-il sa grâce aux papous d'Amazonie? Dieu donne-t-il sa grâce aux terroristes islamiques? Là vous rigolez moins déjà. Dieu donne-t-il sa grâce à Hitler? Dieu donne-t-il sa grâce à qui? Eh bien réponse, Dieu donne sa grâce à tous. Et il n'y a aucun jugement. Et il n'y a pas non plus de jugement à la fin. Il ne dit pas, je vais punir le chemin d'avoir si peu fait pousser de graines. Il y a simplement le jugement de la conséquence. Dieu donne sa grâce. Parfois, cette grâce produit des fruits extraordinaires et parfois, elle ne produit rien. Eh bien, si elle produit rien, Dieu en est désolé, mais Dieu ne punit pas. La punition, elle est simplement là, c'est de ne pas avoir eu la joie d'être soi-même fécond et d'avoir pu soi-même donner. Et alors, Dieu sème. Et ce principe de la grâce, ça c'est le deuxième élément, c'est que je crois que Dieu donne, parce que dans le fond, il se dit, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être que, oui c'est vrai c'est un chemin, mais après tout, peut-être que ça va pousser quand même. Et je pense que c'est ça l'autre chose, c'est que, je dirais finalement, Dieu garde toujours espoir. Et ça c'est une bonne leçon, parce que nous-mêmes, nous avons aussi vite fait, je dirais, de considérer que les autres sont irrécupérables. Ou de considérer qu'un tel, c'est un salaud, il n'y a rien à en tirer, c'est même pas la peine que je me préoccupe de lui. Mais non, Dieu lui n'agit pas comme ça. Et toujours, il se dit, même s'il y a une chance sur 1 million que ça marche, je tenterai cette chance. Et ça, je crois que c'est une leçon extraordinaire. Mais non seulement dans notre rapport aux autres, mais même dans notre rapport à nous. Combien de fois dans mon rapport pastoral aux gens, je vois des gens désespérés, parce que le médecin leur a dit, madame, monsieur, vous avez un cancer, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez une tumeur au cerveau, vous mourrez dans tant de gens, dans tant de temps. Eh bien, je dis, mais écoutez, peut-être que oui, mais peut-être que non. Gardez espoir. Et je crois que toujours, il faut garder espoir. Et toujours se dire, rien n'est fait, rien n'est déterminé, tout est possible avec Dieu. Et là, tout est d'autant plus possible que je crois qu'effectivement, la grande différence entre le chemin, la bonne terre et nous-mêmes, c'est que oui, c'est vrai, le chemin ne peut pas se transformer. Mais nous, je pense que nous pouvons quand même, d'une certaine manière, choisir d'être de la bonne terre ou d'un endroit pierreux. Nous pouvons choisir de laisser pousser dans notre vie ces ronces, ces broussailles qui vont étouffer la parole d'amour, la conviction de la gratuité, du pardon et de l'importance de cela. Et donc, nous avons, par rapport au chemin et aux pierres, une chance extraordinaire qui est de pouvoir quand même intervenir sur notre propre nature et sur ce que nous sommes. Alors oui, certainement, y a-t-il là une incitation à dire, ben écoutez, tant qu'à faire, d'abord sachez que vous avez reçu, puis tant qu'à faire, oui, essayez d'être de la bonne terre. C'est comme ça qu'on l'enseigne aux enfants de l'école biblique. Donc essayez d'être une bonne terre, et effectivement, je pense que les moniteurs d'école biblique ont raison, nous devons apprendre à être réceptifs, nous devons faire fructifier tous ces dons de la grâce, et si nous recevons du pardon et de l'amour, ce serait quand même peut-être pas mal que nous soyons capables de les faire grandir en nous pour pouvoir en redonner. Et c'est ça, c'est peut-être aussi une chose importante, et qui est là très étonnante. Autre deuxième chose étonnante que je signale. C'est que oui, d'accord, il faut recevoir et il faut ensuite le redonner. Mais là, dans ce processus, on peut aussi regarder un peu comment ça se passe. C'est que le grain, pour pouvoir donner une plante, il faut qu'il meure. Et il faut que la terre se soit entièrement, je dirais, nourrie et entièrement consommée et entièrement avalée ce grain, qu'il l'ait fait pourrir en soi-même pour qu'enfin ce grain puisse germer. Et ça, ça me plaît beaucoup. C'est même une idée d'ailleurs qui, vous le savez, est reprise dans l'Évangile quand on dit « si le grain ne meurt, alors il ne peut pas produire de la semence, etc. » C'est une incitation très forte de dire « cette grâce qui vous est offerte, ce pardon de Dieu, ne le promenez pas comme le Saint-Sacrement. » En vous disant oh, « je suis aimé par Dieu, mais c'est terrible, quelle responsabilité, quelle chose épouvantable, je suis pardonné, mais vite, il faut que je trouve quelqu'un à pardonner à mon tour. » Non. Vous êtes aimé ? Réjouissez-vous. Profitez-en. C'est le premier point, la première étape de la foi. Ce n'est pas l'exigence. La première étape de la foi, c'est de se nourrir des dons de Dieu. Faites-en le cœur de votre vie. Profitez-en. Ouvrez la bouche et dites « oui Seigneur, merci ». Je le mange, je m'en repais, j'en fais la source de ma vie. Le grain doit tomber dans la terre, et il faut que ce grain meure. On n'est pas des, par rapport au don de Dieu, des gardiens de musée. On n'est pas des gens qui, devant un chef-d'œuvre en péril. Mais ce grain, on a même le droit de le détruire, de le mâcher, de le croquer, de le digérer. Et donc oui, première étape, apprenez que vous êtes aimé et que pour l'instant, on ne vous demande rien d'autre que d'accepter d'être aimé. Si le grain n'entre pas dans la terre, il ne fournira jamais rien. Donc d'abord, il faut que le grain rentre dans la terre et que ça devienne quelque chose qui rentre en nous. Nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes accueillis, nous sommes libérés et nous sommes sauvés de toutes choses. Ça, c'est le premier point. Et même, je pourrais aller plus loin encore, en disant cette graine, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la grâce, l'amour, la paix. Et même si c'était la parole, tiens, hypothèse, même si c'était l'évangile, oui, c'est vrai que l'Évangile est porteur de ça, parce que qui va vous dire que vous êtes aimé si vous ne lisez pas l'Évangile lui-même ? Eh bien cet Évangile, vous devez le lire, mais vous avez même le droit de le faire vôtre. Et donc il n'y a pas non plus dans l'Évangile une sorte de fondamentalisme en disant « Ah, il y a le texte, il ne faut pas que j'en change une virgule, il faut que je le prenne tel qu'il est et que je le respecte comme une chose extraordinaire ». Il n'y a aucun respect à avoir vis-à-vis de l'Écriture. Le seul respect que nous devons avoir vis-à-vis de l'Écriture, c'est de la faire sienne et de l'avaler soi-même, de se l'interpréter soi-même, de la faire à son goût, à sa personne, et de la mettre en soi. Il n'y a pas de respect extérieur vis-à-vis d'une chose qu'il ne faudrait pas déranger. Et donc cette parole, faites-en ce que vous voulez, interprétez-la de travers si vous voulez, mais lisez-la et mettez-la dans votre vie. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout ça va grandir. Alors oui, c'est vrai, sans doute faut-il faire attention aux épines, aux oiseaux, aux pierres, au soleil, à la sécheresse, à tout ça, d'accord. Ça, vous avez compris. Et après, deuxième grâce. Deuxième grâce assez étonnante. C'est que les grains qui vont pousser. Et donc, si vraiment votre vie est remplie d'amour, de reconnaissance, mais votre vie va suer de tous ces pores de l'amour et de la reconnaissance, si vraiment votre vie est pleine de pardon et de grâce, vous serez des soleils de grâce dans ce monde. Et alors, autre chose extraordinaire, autre cadeau merveilleux de Dieu, c'est que les grains qui vont pousser, les grains qui vont sortir de cet épi, seront exactement de même nature que le grain semé. Et là, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir aussi. C'est que trop de chrétiens ont tendance à penser que finalement, il y a deux natures. Il y a la grâce de Dieu, oh, ça c'est grand, c'est beau, c'est magnifique. Et puis moi, quand je fais grâce à mon voisin, c'est une sorte de similitude, mais c'est la même et en moins bien. C'est comme moi, j'ai une vraie voiture et mes enfants jouent avec une petite voiture, avec la main. Et finalement, il y a la petite voiture pour enfants, il y a la petite grâce pour enfants, le petit pardon pour humains, les petites choses gentilles pour humains. Et puis, il y a le vrai pardon de Dieu, le vrai salut de Dieu. C'est ça, c'est autre chose. Eh bien, vous voyez que dans l'Évangile, ça n'est pas ça. Le grain que nous donnons est absolument indiscernable du grain d'origine. C'est le même. Et peut-être d'ailleurs que le grain que nous avons reçu, ben peut-être qu'il avait poussé avant sur une autre bonne terre. Et peut-être que Dieu s'en est servi et qu'il a récupéré un grain qui avait poussé ailleurs et qu'il nous a redonné. Et peut-être aussi donc que ces grâces que nous recevons, elles ne sont peut-être pas toujours directement tombées du ciel, mais peut-être qu'y a-t-il eu quelque part un ange, un être humain, un frère, un voisin, un proche, quelqu'un qui nous a donné une grâce. Et que cette grâce, elle a quelque chose de divin. Et que cette grâce, il faut la prendre et aussi s'en nourrir. Et donc vous voyez, il y a une sorte de, je dirais, de coopération, de mélange entre l'action de Dieu et l'action de l'homme qui fait que finalement on ne peut plus dire ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Simplement, nous recevons de toutes parts et tout ce que nous recevons est grâce, comme dirait le curé de campagne. Tout est grâce et vivez-le comme une grâce. Et aussi sachez que peut-être vous voulez que Dieu sème dans le monde de l'amour, de la paix, de la justice et de la joie, ben peut-être que c'est aussi vous le semeur. Et qu'il attend que vous-même vous fassiez grandir et vous produisiez cette semence dont il a besoin. Et peut-être qu'effectivement nous sommes aussi un petit peu tout cela. Et puis vous donc, alors nous, finalement j'en suis arrivé à l'idée que nous sommes peut-être le semeur. Mais oui, mais nous sommes même peut-être même bien plus que cela. Parce qu'en effet, il y a une autre chose très curieuse dans cette parabole, et je terminerai là-dessus. C'est l'explication du Christ dont je vous disais qu'elle embrouille tout. Mais elle embrouille bien plus que vous ne pensez. Déplacement très curieux s'opère. Alors qu'au départ, il semble bien que le croyant, ce soit le terrain qui reçoit la semence, dans l'explication que donne le Christ, eh bien le croyant devient la semence elle-même. Et ça, c'est très curieux. Et c'est tellement curieux que la plupart de nos traductions masquent ça. Et ils tournent la phrase autrement. Et au lieu de dire... Et en effet, le Christ dit bien, celui qui est semé dans les endroits pierreux, celui qui est semé dans les endroits pierreux, c'est celui qui, etc. Eh bien, c'est bien ce que dit le Christ dans son explication. Et nos traductions renversent en disant, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est le chrétien qui. Et donc, vous voyez, le Christ, lui, il propose quelque chose d'extrêmement curieux et qui est tellement dérangeant que les traducteurs, en général, ne le supporte pas et l'efface. Moi, ça me plaît, puisque je vous disais tout à l'heure que l'intérêt d'une parabole, c'est de nous faire réfléchir, et donc vous voyez que cette explication joue bien son rôle. Et si nous prenons cette hypothèse, c'est donc que c'est bien nous qui sommes semés dans le monde, et c'est nous qui sommes appelés finalement à devenir parole pour le monde. C'est nous qui avons la dignité non seulement de recevoir l'Évangile, de recevoir la grâce, le pardon, l'amour, la paix, la nouveauté de vie, mais en fin de compte, c'est aussi à nous d'être en même temps les ferments dans ce monde de ces réalités nouvelles. Alors nous devons peut-être nous jeter dans ce monde en acceptant de mourir pour le monde, comme le grain meurt en terre pour que d'autres plus nombreux puissent croître. Et peut-être aussi que comme le Père n'a pas essayé de discerner qui était digne ou non de recevoir les dons de son amour, nous non plus. Nous n'avons pas à essayer de discerner qui serait digne ou qui ne serait pas digne que nous lui donnions notre pardon, notre attention, notre générosité, notre amour ou même notre vie. Oui, je crois que le croyant doit semer sans distinction, doit se donner sans distinction, sans attendre de retour, sans comptabiliser à l'avance sur ou faire des pronostics sur l'efficacité de son action. Le chrétien se donne à tout le monde, partout, sans distinction, parce qu'il croit que Dieu peut faire croître même là où il y a peu de chances que ça la croisse. De même que le Christ est mort pour tous, justes et injustes, le Christ est mort pour chacun de nous, et pas simplement pour les justes, pas simplement pour les bons, pas simplement pour les fidèles. Et c'est en acceptant de donner notre vie au monde comme témoin de la grâce et de la parole de Dieu que cette grâce et cette parole peut être multipliée 10 fois, 100 fois, 30 fois. Et notre éternité est peut-être ainsi que d'autres témoins, à leur tour, puissent se lever pour être semences à notre place dans ce monde. Et ainsi, voilà, c'est bien ça, cela, cette parabole du semeur, où finalement, on ne sait plus très bien qui est celui qui reçoit et qui est celui qui donne, mais dans tous les cas, que l'on soit dans la position de celui qui reçoit ou de celui qui donne, on est dans la situation de la totale gratuité. De l'espérance aussi, oui, mais de la gratuité. À la fois gratuité et espérance. Gratuité parce que, comme le dit l'apôtre, comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et aussi de l'espérance parce que nous croyons que les pronostics d'efficacité ne sont pour rien dans l'action du chrétien, mais que le chrétien donne gratuitement, comme Dieu a donné gratuitement, avec la foi, avec la confiance que toute chose peut croître et que de toute manière, il n'y a pas de plus belle chose que de donner sa vie pour le monde. Amen.